Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, elle vient de recevoir le prix Femina Essai pour Gaspard de la Nuit chez Stock, un livre sur son frère, handicapé mental, un portrait attachant pour le rattacher au monde, à un monde qui a bien du mal encore à accepter la différence, la normalité. La philosophe Elisabeth de Fontenay sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, Yves Saint-Laurent et Christian Dior, les films de leur vie. Avec nos invités, Olivier Meyroux, réalisateur de Célébration sur la maison Yves Saint-Laurent, dernier croquis, dernières images, un monde finissant, les trois dernières années d'une maison au tournant des années 90, à voir en salle le 14 novembre. Et le journaliste documentariste Loïc Prigent pour les dessins de Christian Dior, disponible en replay sur Arte jusqu'au 23 novembre.
La grande table. Olivia Gesbert.
Célébration, c'est l'histoire d'un film interdit d'exploitation pendant 15 ans, fini en 2002. Célébration sur la maison Yves Saint-Laurent, dernier croquis, dernières images, donc, que vous avez réalisé. Olivier Meyroux, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Loïc Prigent, Dior, bonjour. Par ses dessins, bonjour. Il en existe des milliers gardés dans des coffres-forts de la maison. Le couturier était aussi prolifique que mystérieux, traceur de lignes à foison, mais aussi travailleur et discret. Loïc Prigent, c'est un film en gants blancs que vous avez réalisé, car un seul aura le droit de laisser son empreinte sur ses dessins, et c'était Monsieur Dior. Qui vous a autorisé à les approcher, ces croquis?
C'était la maison Dior qui les garde dans un lieu qui est tenu secret. Ils disent pas où c'est, j'ai pas le droit de dire où c'est.
Vous le savez.
Pardon?
Mais vous le savez.
Mais je le sais. Et oui, c'est vrai. Et j'ai fait un documentaire très similaire, même un documentaire siamois, on va dire, sur les dessins de Saint-Laurent. Et le seul qui les a touchés sans gants blancs, c'était Pierre Berger, qui les manipulait. Mais d'ailleurs, c'est des dessins qu'on voit dans Célébration, dans le film de Olivier Meyroux. Et c'est marrant parce que quand vous les avez filmés chez Saint-Laurent, ces dessins, on est en 1998, je pense, et Pierre Berger les traite comme des prospectus presque. Il les jette presque dans tous les sens. Il dit « Oh, on en a plein !» Et c'était vraiment un document de travail, alors que maintenant, moi, quand je le filme...
C'est du caviar qu'on garde dans des coffres forts.
Voilà, ouais. Avec des gants blancs, c'est complètement muséal, la température est gérée, je sais pas quoi... Et maintenant c'est vraiment des documents d'archives, des documents qu'on traite comme si on était au Louvre, quoi. Alors qu'à l'époque c'était des trucs de travail qu'on chiffonnait.
Alors on vous voit interroger des historiennes de la mode, des journalistes, des amis, des couturières, des gardiens du temple, qui manifestent leur surprise, jamais vue. Ça c'est peut-être le mot, l'expression qui revient le plus devant ces dessins, ces croquis de Monsieur Dior, ou raconter l'histoire aussi derrière le dessin. On avait envie de vous demander, à vous, quelle impression générale vous ont laissé tous ces croquis rassemblés?
Il y a un moment donné où, en fait, on a ouvert un tout petit carnet qui, a priori, a été dessiné quand Monsieur Dior était à la campagne. Et il y avait des petits dessins qui faisaient 2,5 cm, 3 cm à peu près, qui à chaque fois représentaient une robe assez élaborée, une robe très sophistiquée pour aller à l'ambassade faire des cocktails avec des espions. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait 3 ou 4 crobards. Et en fait, sur la même page, les 4 crobards étaient des robes extrêmement différentes les unes des autres. Et cette espèce de cerveau qui débite comme ça des robes, quoi, des robes. Et c'est une espèce d'entraînement bizarre parce que comment on fait ça, quoi? Comment ce cerveau fonctionne seul? Et après, derrière, il implique une machine énorme, un truc qui devient un empire dès la première collection dans le cas de Dior.
Les dessins de Christian Dior, extraits ou plutôt flashback.
J'ai apporté quelques souvenirs, quelques papiers.
Ça, c'est des dessins de vous?
Ça, c'est des dessins que j'ai faits. Ça, c'était 46, voilà. Et ça, c'était horrible. Les chapeaux qu'on appelait chapeaux cheminés, et puis les grandes chaussures, les grands sacs.
C'est intéressant de voir le contraste. Ça, c'est 47, c'est ça?
Oui, ça, c'est Dior qui est arrivé, voilà. C'était pour vous montrer, justement, le peu d'élégance qu'il y avait avant lui. Et puis, tout d'un coup, ça a été l'explosion de féminité. Tout ça, c'était sur jupon. Donc, en réalité, quand vous vous preniez, ça balançait. C'était ravissant.
Ça devait être sexy, surtout. Les garçons devaient...
Ah, alors, ben oui. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai emballé mon mari. Parce qu'il arrivait d'Indochine.
Vous avez acheté une robe Dior comme ça ?
Ah non, non. Travaillant chez Dior, je me faisais mes robes. Alors, normalement, on n'avait pas le droit. Parce que dans les ateliers, c'était copier, c'est voler, copier, c'est voler, copier, c'est voler. On était imprégnés de cela. Mais automatiquement, si je venais de faire un modèle qui me plaisait, je me le faisais pour moi après. Mais du coup, j'avais beaucoup d'admirateurs parce que j'étais très bien habillée.
Copier, c'est voler, on aura en tout cas retenu la règle, pas de copie sur vous pour l'instant, Loïc Prigent. Chez vous, Olivier Meyrou, c'est un peu aussi, il faut le dire, le dessin qui est central chez Yves Saint-Laurent. En tout cas, tout commence par un dessin. D'ailleurs, vous ouvrez le film avec une archive qui le montre crayon à la main, on le voit comme souvent, silencieux, appliqué dans son monde. Quel moment de sa vie avez-vous capté pour ce film ?
Mais quand Pierre Berger m'a demandé de faire un film sur eux, en fait, on était en 98, donc c'était 4 ans avant la fin de la maison de haute couture. Et
il lève le crayon en 2002, an après la fin de votre
là,
tournage.
Là, c'est un plan qu'on a fait en 98, mm-hmm. Je pense, c'est pour la collection de juillet 98. Et il lève définitivement le crayon, je crois, en janvier 2002, je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça.
Mais c'était un moment très particulier dans la maison, en fait, parce que tout était en train de s'endormir. Et ce qui était très beau, c'est que ce créateur mythique, déjà, qui était au centre de sa maison, en fait, était porté. Quoi, j'avais le sentiment qu'il était porté par un collectif. C'est le moment où les ateliers, les gens de la presse et tout, le portaient à bout de bras aussi. Il y avait quelque chose de très beau. Quoi. C'était pas ce qui m'a frappé, c'était pas tant l'épuisement ou la fatigue, mais l'œuvre devenait collective, en fait. Et c'est un moment assez magique.
Mais c'est vrai que c'est quand même un peu le château de la Belle au Bois Dormant pendant les 100 ans que vous filmez. Hein. Il y a l'idée d'un monde qui continue à s'activer, mais qui est peut-être pas sur le déclin, mais finissant. Des images qui sont presque un peu passées, d'ailleurs. Ces images ont plus de 15 ans aujourd'hui. Pour comprendre, alors vous vous tournez un peu vers le spécialiste qu'est Loïc Prigent, parce que vous n'êtes pas, vous, un spécialiste de la mode, tout. Même si vous avez réalisé ce film. C'est Yves Saint-Laurent qui voulait arrêter ou il était plus en état ?
Je sais pas, je crois que c'est le collectif qui peut-être le lâche, ou je sais pas où il veut lâcher le truc, je sais pas trop.
Une partie du collectif a lâche, voire même un peu plus âgé que Madame Munoz, donc je pense que... Et lui-même, je pense, me semble à bout à ce moment-là.
Qu'est-ce que les vêtements sont beaux.
Oui.
On voit un final de défilé à un moment donné, c'est tellement beau. Tellement parfait. Mais bon, ils étaient dans le parfait, quoi. Et je sais pas si la mode voulait du parfait à ce moment-là.
Alors, on va aller voir ce final avec vous.
C'est super, moi, je trouve ça, franchement.
Et puis, toutes les coloris, elles ressortent bien. Hein.
Tu te rends compte, dans le monde entier, qu'on va voir ça, mais c'est, au moins, ça représente la France, ça. C'est ça, hein. Ça, c'est beau. Ça. Oh, puis ça c'était comment, Van Gogh.
Oui.
Les iris, c'est le tournesol, regarde, oui. Le tournesol. C'est des pistes uniques, ça.
C'est pour ça qu'ils les gardent dans son musée aussi.
Oui, oui, mais ça, c'est... Alors, moi, j'ai vu que le tournesol, j'ai pas vu les iris ici.
Merci. C'est ça, il l'a peut-être pas mis tout. Oh,
aïe.
Ma robe avec les seins en fer. Regarde, on les voit bien. Hein.
Oui, on voit bien. Oh là là.
Tu vois, il a dit Matisse.
Matisse.
Ça, c'est tout notre travail, là.
Ouais. Là, oui, c'est nos années.
Tiens, ma robe avec le cœur.
Ouais. Je l'avais pas vu, tu vois, c'est la robe maintenant.
Yves Saint-Laurent.
Ah oui, voilà, c'est ça.
C'est formidable.
Alors, dans cette scène, Olivier Meyrou, il faut raconter, vous cadrez sur le visage des deux couturières qui sont en train de regarder à distance le défilé. Et c'est le moment, c'est l'apothéose, c'est l'arrivée d'un travail, d'heures et d'heures de travail pour réaliser ce défilé.
Alors là, c'était particulier. En plus, c'était un défilé au Stade de France. C'était 2-3 heures avant la Coupe du Monde de 98. Et Pierre Berger avait mis en scène, hein. mais c'était le metteur en scène, c'était l'auteur du mythe Saint-Laurent. Pour moi, c'était Pierre Berger. Il y avait Saint-Laurent d'un côté et celui qui travaillait le mythe, qui depuis des années, quoi, jusqu'à y mettre toute sa fortune aujourd'hui, encore après son départ, c'était vraiment Pierre Berger. Et donc c'était cette célébration. Et en même temps, ça me semblait hyper important, en fait, d'avoir des ouvrières, un point de vue d'ouvrière aussi, qui avait réellement fabriqué également ces robes. Regarder ce défilé, c'était une mise en abîme qui me semblait assez juste par rapport, encore une fois, à cette idée de collectif. Et ça ne retire rien à notre créateur de parler d'un collectif, je pense, dans ce cas-là. Et Saint-Laurent était très absent. Parfois, j'avais l'impression de faire... Quand il fallait filmer Yves Saint-Laurent, c'était du film animalier, en fait, réellement. Jamais été vraiment en contact personnel avec lui. Et je crois pas que des gens extérieurs, à ce moment-là, pouvaient être en contact personnel avec lui.
Il fallait le saisir, il fallait le capter, à un moment où il passait.
C'était un grand fauve, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le premier jour de tournage, le premier jour dans le studio, c'était une tension, même pour Pierre Berger, c'était une tension de faire entrer une caméra dans le studio. On est arrivé, on s'est mis dans un coin, et je me disais, forcément, il allait venir à sa table de travail, puisqu'il y avait une collection à faire. Et en fait, il est jamais venu, il fuyait la caméra, quoi. Et puis un jour, on a vu Mujik arriver d'abord, et puis cette silhouette comme ça très particulière de Saint-Laurent qui marchait en
C'est une démarche nonchalante, ouais. Complètement. Il a souvent s'asseoir. Les mains dans les poches, ouais. le regard en bas. Parfois, il se regarde dans un miroir, quand vous arrivez à saisir son visage, il a souvent aussi ce regard un peu absent, cette présence fantomatique. Loïc Prigent, vous l'avez rencontré. Vous avez retrouvé le Saint-Laurent que vous connaissez dans ces images.
Moi, je l'avais interviewé une fois, mais au Débeauté, sans avoir l'autorisation, et j'en ai un souvenir vraiment tétanisé, il a mis du temps à répondre, et c'était une réponse très très violente, très fielleuse. C'était au moment où Tom Ford avait repris le prêt-à-porter Saint-Laurent, et il m'a vraiment craché le mépris qu'il avait pour Tom Ford, et c'était vraiment... C'était très impressionnant, la figure du commandeur, quoi. Mais quand moi je regarde Célébration d'Olivier Mérou, j'ai vraiment l'impression de voir le chaînon manquant, c'est-à-dire vraiment une partie très importante de la Maison Saint-Laurent qu'on n'a pas vraiment vue. On a tous assisté à ça, cette espèce de fin où à la fois il est dans le sublime le plus total sur les podiums, et on sait que physiquement, même cérébralement, ça n'a pas l'air d'être... la grande forme. Et puis surtout, on voit le personnage de Pierre Berger qui est extraordinaire, qui est l'espèce de fantasme qu'on a du grand patron français dans les films de Pierre Richard et de Louis de Funès, quoi. C'est entre Oscar et... Ben, des fois, c'est drôle, des fois, c'est vraiment dramatique. Il y a la façon de parler aux employés, elle est hallucinante, quoi. Et c'est un truc...
Et ses regards à lui, souvent dans l'ombre, dans le coin, dans un coin de la pièce, on voit toujours Pierre Berger qui guide Saint-Laurent, qui le surveille, qui le protège. Il est à la fois sa voix, son corps, il est aussi celui qui tient un peu les fils de ce pantin.
C'est le metteur en scène, ouais. En fait, au moment de l'histoire. Et si on a eu des problèmes, je pense que c'est que j'avais pas réalisé qu'on était deux metteurs en scène sur le coup, en fait. Il y avait le metteur en scène qui avait toujours été là d'origine de l'histoire Saint-Laurent, et puis moi qui prétendais faire un film indépendant, et donc forcément ça pouvait pas aller, quoi. Mais c'est le moment où ils sont rattrapés aussi par la condition humaine, et c'est ça que je trouvais très beau, en fait. C'est le moment où tout mythe que vous êtes, en fait, il y a un moment donné, vous êtes rattrapé par notre condition humaine, et c'est un atterrissage grandiose en même temps.
On va l'écouter, Pierre Berger, extrait de Célébration, votre film, Olivier Mérou, en salle mercredi.
Ce que je voulais te dire, c'est que aussi loin que tu ailles, nous serons là, nous t'aiderons et nous serons tous à tes côtés. Alors je veux te souhaiter un bon anniversaire, peut-on dire, puisque ça fait 40 ans que tu fais ce métier qui t'a donné tant de joie, mais d'une certaine manière détruit beaucoup de choses en toi, qui t'a fait vivre une vie de reclus, qui t'a fait renoncer à tant de bonheur et à tant de joie. Mais la création se paye, elle se paye quelquefois cher, quelquefois lourdement. C'est une voie que tu as choisie, tu l'as choisie quand tu étais enfant, quand tu étais jeune. Cette voie, tu ne la savais pas aussi difficile, elle s'est ouverte comme une voie royale à toi. Donc ça fait 40 ans maintenant que ce métier, tu le fais. Et puis dans quelques jours, ça sera ton anniversaire. Donc c'est une double raison pour te souhaiter un bon anniversaire, Yves. Et à tout le monde ici, je veux aussi souhaiter bonnes vacances. Bon anniversaire.
Merci.
Olivier Mérou, vous montrez comment dans la maison Yves Saint-Laurent, rien ne se faisait sans l'aval de Pierre Berger, que le film est né dans cette complicité, qu'il avait accepté d'ailleurs de vous laisser filmer dans l'intimité de cette maison de couture et de fait dans l'intimité du dernier grand couturier de la place de Paris au travail. Alors le film a été longtemps reporté, vous venez de l'évoquer, la complexité c'est qu'il ne pouvait pas y avoir deux metteurs en scène et vous aviez visiblement deux conceptions différentes du documentaire.
C'est-à-dire que j'avais une moi, j'avais fait la Fémis. Pour moi, le documentaire, il y avait comme une démarche relativement indépendante. À un moment donné, on part avec les rushs, on va en montage, et là, il y a une monteuse et une réalisatrice.
Et lui, quand il a, qu'est-ce qu'il a fait tilter? Il a pas aimé les rushs ou c'est l'assemblage, le montage
qui n'a rien vu en fait. Il a vu le film le 26 novembre 2015 pour la première fois. Je pense qu'on est en avance, en fait, sur l'histoire à raconter, de son point de vue. C'est que c'était l'histoire d'une fin. Or, au moment où on tourne, de 98 à 2001, il y a cette vente de Sanofi à PPR, il y a encore des enjeux économiques forts, quoi. Et puis, je pense que, et ça, pourquoi pas, c'était légitime qu'il avait le sentiment que c'était à lui de mettre un point final à l'histoire et que c'était pas à moi, avec un documentaire, de mettre ce point-là. C'est pas, avec le temps, je deviens plus indulgent, en fait. Mais
donc, il vous a empêché de le sortir, ce film?
Ah oui.
C'est ça?
Ah oui, clairement, on avait un distributeur qui devait le sortir en salle. Oui, il a menacé de tout faire, en fait, au moment de la sortie pour s'y opposer, ce qui veut dire un référé, je pense. Mais je crois qu'il se sentait légitimement trahi, mais à tort. Mais c'était un homme qui avait parfois des lubies aussi. Il percevait des choses qui n'étaient pas forcément réelles. Donc.
Trahi par quoi, Loïc Prigent? Vous pouvez comprendre, vous, en voyant le film d'Olivier Mérou?
Je pense que oui, c'est difficile à voir pour Pierre Berger, au moment où la maison n'est pas encore fermée, de voir ça, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très 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 dures, très tristes. Il y a des scènes vraiment, à la fois ils sont dans la maîtrise et la virtuosité la plus totale, et en même temps ils sont dans une espèce de, enfin, on a envie d'ouvrir les fenêtres, d'aller dans la pièce, ouvrir les fenêtres, quoi. Mais c'est un document extraordinaire, hein, sur la vie de cette maison là à ce moment là et peut-être sur la France même. Enfin, moi j'ai complètement, moi je tapais des mains en regardant. C'était comme un fou.
Pourquoi?
Parce que je connais. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai filmé beaucoup des ouvrières et des ouvriers. Enfin, oui, c'est surtout les ouvrières. Je les ai beaucoup filmées après, en 2004 chez Chanel et les années d'après chez Dior. C'est des gens qui sont aujourd'hui première d'atelier. Il y a une première d'atelier floue chez Dior qu'on voit là et qui est toute jeune à l'époque. Mmh. On voit des gens qui sont devenus des grands créateurs de bijoux et qui sont au troisième rang. Vous les voyez, ils sont au fond d'un essayage de Saint-Laurent et ils ont les yeux complètement écarquillés. On sent qu'ils sont en train de faire leur classe. Et c'est un document précieux pour ça.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Olivier Mérou, on entend Pierre Berger dire à Yves Saint-Laurent et dire de lui, tu as eu une vie de reclus. La création, ça se paye. Pour Yves Saint-Laurent, la mode, la création, ça a été quand même à un moment un remède à ses angoisses, ou ça a été un mal qui n'a cessé de le dévorer, dans ce que vous avez ressenti? Ouais.
Je pense que c'était un remède, mais on expérimente ça nous-mêmes dans nos vies, en fait. Les plus chanceux d'entre nous trouvent très vite un remède, en fait, à leurs questions, parfois très importantes, et puis il y a un moment donné où ce remède n'est plus suffisant, et de toute façon on est rattrapé par notre nature profonde, mais ça c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment. Et je pense que si Pierre Berger m'a demandé à filmer durant ces 2 ans, c'est qu'il voulait quand même que ces images existent aussi. Et je me dis aussi que s'il voulait que ces images existent, c'est que on y voyait sa place très importante à Pierre Berger aussi. Donc je pense qu'il y a eu à la fois un rejet du film, mais la nécessité pour lui que ces images existent quand même à un moment donné. Donc c'était...
Oui, il se met en scène. La scène où il est dans une grue à côté du... face à face avec l'obélisque de Paris, c'est lui qui a commandé la grue, non?
Ben oui, parce que ce jour-là, il posait un pyramidion en fait sur la Concorde. Et c'est le premier jour de tournage, en fait.
Mais non.
Et on arrive comme ça sur une nacelle et on monte au sommet, comme ça. C'est un plan qui est dans le film, d'ailleurs. On monte au sommet de l'obélisque. Et là, il fait poser son pyramidion doré.
C'est
Cette scène est dingue, mais dingue.
Et c'était le premier jour de tournage et ça a donné là quand même. C'est-à-dire, c'était et d'où l'intérêt de filmer les ouvrières aussi qui étaient dans la même maison, parce que pour moi il y avait une sorte de
l'une des classes.
De normalité presque, ouais, mais plus quoi. Je viens d'une famille plutôt modeste, donc il y avait au moins un repère sur lequel je pouvais me baser quelque part pour voir l'extravagance et la beauté parfois, mais de tout ce qu'ils avaient construit à deux par ailleurs.
Nos invités, Loïc Prigent et Olivier Mérou, à l'occasion de la sortie de votre film, Olivier Mérou, Célébration autour de la maison Yves Saint-Laurent, tourné entre 98 et 2001. Le film sort en salle 15 ans après la réalisation de ce film. Ce sera donc demain sur vos écrans. Et le journaliste documentariste Loïc Prigent, grand habitué de la mode, des coulisses aussi des maisons de mode, pour les dessins de Christian Dior, à voir encore quelques jours jusqu'au 23 novembre sur Arte en replay. France Culture, il est midi 22.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et si on retournait du côté de chez Monsieur Dior, quand il voulait ça, il fallait que ce soit fait, dit Paul, la couturière devant votre caméra, Loïc Prigent. Un dessin, c'est forcément la base de tout, mais est-ce que c'est même plus que ça? Est-ce que c'est un appel à faire? Est-ce que c'est une injonction? Est-ce que c'est déjà plus qu'une idée? C'était une robe telle que les percevait Monsieur Dior?
C'est un monde qui fait revenir, parce que avec son dessin, en 47, il dessine trop de tissus alors qu'il n'y a plus de tissus, il dessine des robes avec des corsets alors qu'il n'y a plus de corsets et que les femmes sont dans la, ont été dans la torsion, plus que dans la torsion même, je crois, pendant des années. Et lui, il fait appel avec ses dessins, il fait vraiment appel à 1905, à son enfance, en Normandie, une famille bourgeoise, et une espèce de féminité relativement entravée. Mais une féminité rêvée, quelque chose qui serait idyllique, parfait, rassurant, un moment où le monde est complètement à plat et à zéro moralement et autre économiquement et tout ça. Et il convoque ça avec juste c'est ça qui est fou, un tout petit carnet et un crayon de papier. Moi, je trouve ça vraiment fou. Et le mec, il y arrive. Et en 6 mois, il est plus de 50% de la balance économique de la France. Et il remet Paris sur la carte économique par la mode. Et donc c'est quand même un espèce de tour de passe-passe fou avec un crayon papier et un bout de papier. Ouais.
On l'écoute, Christian Dior en 1954.
Christian Dior, comment est votre collection aujourd'hui et qu'est-ce qui caractérise la mode actuelle?
Ah, chère Lise, c'est une silhouette d'abord très épurée. On a parlé beaucoup de poitrine plate. Il n'est pas question de poitrine plate, mais il est question surtout d'un buste long, d'une poitrine remontée, d'une femme peut-être plus jeune encore que la femme d'hier, une femme presque adolescente, qui a le corps idéal des nymphes que l'on voit sur les tableaux. Vous voyez, j'ai été très inspiré par la peinture cette saison. Et d'une femme très jeune, très nette, très élégante, il le faut, très décidée et assez chaste. Il n'y a plus de grand décolleté. Le style pin-up en délire ou starlet en mal de publicité est périmé maintenant. Il faut trouver autre chose. Les abus mènent toujours à une réaction.
Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, la silhouette Dior?
Mais c'est qu'elle n'est pas une salopette, justement. Ce qui est étonnant, c'est en parlant avec les ouvrières et des collaborateurs, j'ai appris qu'il n'y avait jamais eu de zip, par exemple. Il n'y a pas de zip chez Dior.
Quoi, zip?
Ouais, de fermeture éclair. Il n'y a pas une fermeture éclair. Il n'a jamais dessiné de pantalon non plus. Il en a dessiné, mais il n'en a pas créé pour sa maison, en tout cas.
Dans une discussion, on entend deux personnes qui commentent un des dessins que vous leur montrez et qui voient déjà dans ses croquis les origines du smoking Saint-Laurent. Hein.
Oui, il a aussi influencé. Il dessine en 38, juste avant la guerre, dans le Figaro, il dessine des reportages de mode, en gros, et il y a des femmes dans ce qui pourrait être un smoking Saint-Laurent de 1963 ou 4 ou 5. Ouais. C'est assez marrant parce que dans Célébration, dans votre film, on voit que Pierre Berger, à chaque fois, il dit oui, ça c'est les premiers pantalons. Il était toujours dans la théorie que Saint-Laurent avait tout inventé,
C'est très très drôle.
Il faut vivre d'affirmations et les gens finissent par le croire.
Voilà, c'est une très belle phrase.
La preuve par Christian Dior que d'autres étaient passés quand même avant lui. Alors il y a énormément de dessins, de croquis qui ont été gardés précieusement, mais il y en a aussi certains rares qui ont disparu, et notamment le bar, si je dis bien.
Oui, le bar BAR.
Voilà, le bar. C'est ce tailleur très Dior qui étrangle la taille et qui fait à la femme une sorte de forme de sablier, hein, c'est ça.
C'est ça, ouais, qui se termine en corolle.
Ouais.
Et apparemment, c'est créé en février 47. Et c'est Pierre Cardin qui était l'ouvrier qui a fait ça. En fait, il était tailleur. Et apparemment, il est descendu à la pharmacie au coin, acheter du coton hydrophile, et il a bourré les bas de la veste de coton hydrophile qui sont devenus des basques. Et c'est assez marrant parce qu'on peut voir dans cette basque un élément de veste militaire du 19e, un peu, si on veut. Mais romancé.
Sur le papier, les ratés, il fallait les déchirer. À la fin de chaque journée, il y en avait même un dont c'était le travail, déchirer les croquis ratés de Monsieur Dior. Mais par ailleurs, il notait tout dans des petits carnets beiges. Il en a noirci des dizaines, et ça aussi, vous le montrez, Loïc Prigent, dans ce film. Je voudrais qu'on revienne sur la personnalité de l'homme avant de se quitter, parce que alors Dior était un grand dessinateur, ça faut le dire. Avant, il dessinait pour sa galerie, il a continué à faire des dessins dans la presse aussi. Avant même d'être un créateur de mode, c'était un dessinateur. Des dessins et des lettres qui, pour vous, racontent Loïc Prigent un homme. C'est une personnalité qu'on a beaucoup plus de mal à identifier que celle d'Yves Saint-Laurent, sur lequel il y a déjà eu beaucoup de films, de documentaires. Dior, c'est un homme extrêmement discret. Vous le décrivez comme fin, mélancolique, obsédé par le travail, qui a cherché à créer un monde idéal. C'était un tempérament de Normand aussi. Hein.
C'est un tempérament de Normand. Il est assez schizophrène dans le livre qui s'appelle Dior et moi, qu'il a écrit ou fait écrire, mais il y a des parties qui sont tellement désagréables sur lui-même que je pense qu'il a pu que l'écrire, ou en tout cas bien le dicter de près. Il dit qu'il est un Normand bedonnant, avec un tempérament de paysan, et qu'en fait il arrive aux États-Unis, il fait une conférence de presse et il est obligé de parler en anglais aux reporters, et qu'il se retrouve à créer une espèce de Christian Dior qui n'est pas du tout, et je crois qu'il a été assez malheureux, et que sur la fin il est vraiment surmené. Il veut se lancer dans un business de fleurs à la fin. Enfin, il veut abandonner la mode. Il donne le bâton à Yves Saint-Laurent. Dès 55, il convoque la mère de Saint-Laurent. Il lui dit, ça va être votre fils qui va reprendre le relais. Moi, je vais faire autre chose. Et il meurt 2 ans après. Moi, je pense que c'est un espèce de burn-out incroyable qu'il a fait, Christian Dior. C'est vrai qu'on connaît moins l'histoire maintenant, parce que il y a aussi le fait que sa vie privée restait très 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 privée, et qu'il n'a pas eu la chance d'avoir la décomplexion d'un Pierre Berger pour vivre sa vie.
Faire le storytelling aussi. Et faire du storytelling.
Ouais. Ouais. Oh, la Maison Dior fait très bien le storytelling aujourd'hui.
Mais il est peut-être plus contrôlé. Non. Si.
Non, justement, il est en train de s'ouvrir.
Merci beaucoup à tous les deux, des dessins et des images, les vôtres, les films de leur vie, Yves Saint-Laurent et Christian Dior. Célébration sort en salle demain, c'est votre film, Olivier Mérou. Quant à votre film documentaire, Les dessins de Christian Dior, il est à voir encore et encore sur Arte jusqu'au 23 novembre. Loïc Prigent, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.